Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment merveilleux, Père éternel, au cours duquel, Père éternel, nous nous sommes rappelés de l'œuvre grandiose que ton Fils Jésus-Christ a réalisée sur la croix. Nous voulons saisir cette occasion, Seigneur, pour abandonner tous les sauvés, tous ceux qui sont nés de nouveau entre tes saintes mains, Seigneur, pour que tu leur accordes l'espérance, la joie de marcher à ta suite. Prions également, Père éternel, pour ceux qui sont du dehors, ceux qui sont encore, Père éternel, loués de ta grâce, loués de ta face, loués de ton règne. Père, que tu utilises tous les sauvés, tous ceux qui sont nés de nouveau, afin qu'ils soient des canons, mon Dieu, mon roi, pour apporter la lumière, pour apporter le salut à ceux qui périssent, Seigneur. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi, que ta lumière luise sur cette église. Que ta lumière luise sur tout et chacun, pour que, mon Dieu, mon roi, nous puissions rayonner partout où tu nous envoies. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment merveilleux, un moment au cours duquel encore nous pouvons célébrer ensemble, comme une famille, les enfants de même Père. Nous te prions que cette joie abonde dans nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Nous allons nous mettre debout et lire la parole de Dieu en trois textes. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 10. Nous allons lire aussi Romains 8, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 39, et l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Nous commençons par le prophète Ésaïe, chapitre 53, et nous allons lire le verset 1er jusqu'au 10e. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix nous est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Nous continuons la lecture avec l'épître de Paul aux Romains, au 8e chapitre, et nous lirons le verset 35 à 39. Romains, chapitre 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs que celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le dernier verset, c'est l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Le verset 28 seulement, chapitre 11, nous lisons le verset 28 et nous pouvons le lire tous ensemble. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pouvons nous remettre. Bien-aimés, ce matin, nous allons étudier ensemble ou parcourir un sujet qui est intitulé « Dieu dans nos situations traumatisantes ». La grande question qu'on peut se poser est que où est Dieu quand je suis accablé par les traumatismes? Nous savons que le péché étant entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, le mal et les maladies de toutes sortes sont compagnons de l'homme. Ces dernières affectent l'homme non seulement du point de vue physique, mais aussi spirituel et mental. Cela arrive à tout le monde, chrétien ou pas. Ça nous arrive. Il leur arrive à se poser des questions. Dieu, où es-tu pendant que je passe par ces moments traumatisants? Ou encore, est-ce que Dieu existe vraiment pour me laisser vivre ainsi? Et d'autres, de conclure, certainement, Dieu nous a abandonnés. C'est à ces questions que nous voulons apporter la réponse en disant que l'Éternel, notre Dieu, est présent dans nos situations de détresse, comme nous l'avons vu et suivi dans le culte du dimanche passé, 20 août. L'Éternel, notre Dieu, est à nos côtés quand nous passons par des moments, des situations traumatisantes. Nous voulons bien aimer que nous puissions comprendre, nous tous, en tant que disciples de Jésus-Christ, que les situations traumatisantes font partie de notre vie. Nous voulons aussi que nous, les disciples de Jésus-Christ, nous puissions ressentir la présence de Dieu à nos côtés toutes les fois que nous passons par des situations difficiles ou des situations traumatisantes. Nous voulons aussi apporter une confirmation à vous, mon frère ou ma sœur, qui doute encore de croire à Jésus-Christ, que Dieu est là pour nous guérir de nos blessures du cœur. Nous allons bientôt chercher à comprendre les traumatismes comme des blessures du cœur ou blessures émotionnelles. Nous allons parcourir quelques causes, quelques signes et quelques connaissances. Ils sont nombreuses, mais nous allons parcourir seulement quelques. Nous allons terminer par nous rappeler que Dieu est présent dans notre vie en tant que disciple de Jésus-Christ pendant que nous traversons des moments difficiles. Les traumatismes, c'est quoi? Le trauma est une blessure physique ou psychique infligée à l'organisme ou à la lésion qui en résulte. Le trauma est une expérience émotionnelle. C'est la blessure à l'intérieur. Pendant que le traumatisme renvoie aux conséquences locales ou générales du trauma, le traumatisme est une expression émotionnelle. C'est le traumatisme qui se fait voir. Le traumatisme fait voir le trauma. Et les traumatismes sont donc ces signes qui sont psychologiques et vérifiables, observables. Le trauma, parlons bien de la blessure psychique ou blessure du cœur, n'est pas visible comme une blessure physique. Nous pouvons nous rendre compte des blessures du cœur suite aux changements constatés dans notre comportement ou dans le vôtre. Exemple, si nous sommes témoins d'un événement tragique, un accident par exemple, les images enregistrées dans notre mémoire, après un temps, nous les serons emportées par la peur ou l'angoisse face au danger et cela se manifestera par notre comportement. Nos cœurs peuvent être blessés donc quand nous sommes envahis par une grande peur, le désespoir ou l'horreur face à la mort ou à la violence. Nos cœurs peuvent aussi être blessés quand nous entendons les expériences traumatiques des autres. Psaume 109, verset 22, le psalmiste a dit « Je suis malheureux et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Quelques causes des blessures du cœur. La première, c'est la souffrance. La souffrance à laquelle nous sommes exposés, c'est vraiment une des causes des blessures du cœur. Le péché, la désobéissance d'Adam et Ève a plongé l'humanité tout entière dans la souffrance. Le mal et la mort sont en train dans le monde. Suivez bien, écoutez ce que Dieu a dit quand il le disait à Adam. Il a dit, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Le sol sera quoi? Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol maudit, cela veut dire que l'humanité tout entière est maudite. Mais aussi, nous souffrons parce que Satan, dans sa rébellion, veut inciter autant de gens, autant d'esprits que possible à se rebeller contre Dieu. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit même à Simon-Pierre, son disciple. Il a dit, « Simon, Simon, faites attention. » Je paraphrase. « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Le froment. Vous savez, le froment. Et Jésus a dit à Pierre, « Satan voulait vous cribler, vous prendre et vous cribler comme on peut le faire pour le froment. » Mais j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous. Nous souffrons aussi par le fait que nous avons choisi ce chemin ou celui-là. Là, c'est nous-mêmes. Nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal. Notre choix ou le choix des autres peut nous amener dans une situation de souffrance. Deuxième cause de souffrance ou deuxième cause de traumatisme, c'est les deuils mal faits. Nous savons tous, quand nous sommes frappés par le deuil, faire le deuil, c'est pleurer jusqu'à ce qu'on se rende compte que la personne ou la chose perdue n'est plus là. Ça, c'est ça, faire le deuil. Mais si on n'a pas bien pleuré une perte, cela peut nous amener à vivre les blessures dans le cœur, les blessures de notre cœur. Et nous allons exprimer ainsi le traumatisme. Les pertes que nous ne connaissons, que nous connaissons dans notre vie, nous affectent et nous font éprouver un certain chagrin. Néhémie, dans son livre, chapitre 1, 3 et 4, quand il a écouté les nouvelles de Jérusalem, il a dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fis plusieurs jours dans la désolation. » Néhémie a pleuré, Néhémie a fait le deuil sur Jérusalem. Quand les gens perdent quelqu'un ou quelque chose qui leur est très important, ils peuvent perdre le sens de leur identité. Cela est particulièrement vrai quand un époux ou une épouse meurt, par exemple, ou quand quelqu'un perd la vue ou un membre de son corps. Le deuil mal fait conduit aussi au remariage dans un délai court après le décès du conjoint ou de la conjointe, surtout. Peut-être poussé par le ministère, on peut exiger à l'homme qui ne veut pas être appelé veuf de se remarier. Les autres membres de famille n'étant pas encore arrivés au village de nouveau départ, ils resteront bloqués au village du sans-espoir. Et le deuil ne sera pas terminé, même des années, plusieurs années plus tard. C'est ce que nous appelons les faux ponts. Les faux ponts. Les faux ponts, c'est prétendre être vite consolé après le décès du conjoint. C'est un exemple. C'est prétendre être vite consolé en se référant à certains versets bibliques, comme par exemple, nous les chrétiens ne plairons pas comme les païens, citant en passant le Paul aux Thessaloniciens 4, 13b. Les faux ponts, c'est ce que souvent bon nombre de gens font. Il peut dire, non, moi je suis chrétien, tout ce qui m'arrive est dans les plans de l'Éternel. Voilà. Yoteni, quoi? Hein, qu'est-ce qu'on dit en swahili? Kila tukioni takatifu. Et là, ça me bloque pour pleurer. Et quand je ne pleure pas, je fais les faux ponts. Puisque je prends des ressources dans la Bible pour dire, le chrétien ne peut pas pleurer. Et là, je vais faire les faux ponts. La douleur de la séparation d'avec la personne qui vient de mourir va rester dans mon cœur. Et en faisant les faux ponts, comme vous avez vu dans le dessin là, les faux ponts, c'est ce chemin-là. En quittant le chemin de la vie, qui est normal par trois villages, mais on veut embrasser les faux ponts pour atteindre le nouveau départ. Et les faux ponts n'arrivent pas au nouveau départ. Ça n'arrive pas, puisque c'est les faux ponts. Ça ne va pas vous faire arriver au nouveau départ. Pour le nouveau départ, c'est l'étape où on accepte déjà avoir fait le deuil et qu'on peut maintenant s'engager dans la vie comme à l'accoutumée. Cela se remarque dans la plupart de nos familles chrétiennes. Nous avons entendu des enfants qui avaient fui leur père remarié. Leur papa remarié, les enfants dans la famille avec la nouvelle mère, mais ça n'a pas tenu. Peut-être les enfants n'avaient pas terminé à faire le deuil de leur maman. Ces enfants ont fui le toit paternel et ils sont partis peut-être chez les oncles ou chez les grands-parents. Nous avons vu des hommes remariés qui appelaient leurs nouvelles épouses par les noms des premières décédées. Il veut que l'épouse puisse lui apporter quelque chose. L'épouse peut-être c'est Fazila qui est là, mais il appelle un autre nom, le nom de sa première épouse décédée. Maintenant, Fazila qui se demande, jusqu'à présent, tu n'as pas encore oublié ta femme là? Nous avons vu aussi d'autres hommes qui se rappelaient de la ponctualité des premières décédées. Ah, si c'était Fazila, ça, c'est, à cette heure-ci, je serais déjà à table, puisqu'il est déjà 20h ou 19h. Mais toi qui es arrivé, tu arrives à me faire manger jusqu'à 22h. Cet état-là montre qu'on n'a pas bien fait le deuil. On n'a pas terminé le deuil pour s'engager au remariage. Il y a tout un tas d'enseignements pour cette question du remariage. Autre cause, ce sont les paroles et images négatives que nous avons reçues pendant notre enfance. Les paroles et images négatives que nous avons reçues pendant l'enfance peuvent nous causer des traumatismes. Si par notre enfance, nous avons entendu des paroles négatives, avons vécu des expériences traumatisantes, nous pouvons vivre le reste de notre vie avec ces images imprimées dans notre mémoire et qui nous amène à vivre un comportement soit violent, soit un comportement de peur d'entreprendre, soit un comportement de peur de faire une initiative, ou soit le désespoir. Un jeune garçon qui faisait le stage dans un garage et à qui le maître de stage pouvait lui encourager de faire un travail, lui-même il se disait, moi je suis non kiwelewele. Donc, moi, je suis non-sens. Mais pourquoi? Non, c'est maman qui m'appelait comme ça depuis mon bas âge. Vous voyez, l'image que cet enfant a, ça, c'est imprimé maintenant dans sa mémoire et ça lui amène à vivre une vie qui n'est pas bonne, mais qui est une vie qui a des blessures intérieures graves. Autre cause, c'est la guerre, le viol, les violences de toutes sortes et l'héritage des préjugés. La situation des guerres dans notre pays, par exemple, est une grande cause de traumatisme pour nous, Congolais. Le comportement de la plupart des habitants de ce pays a changé depuis les années 90, quand les guerres ont commencé dans cette province. La vie humaine n'est plus à considérer. Le viol est devenu une arme de guerre. Les violences familiales et autres amènent les victimes à ne plus se sentir valeureuses créatures à Dieu. Ceux qui héritent des préjugés de tel ou tel autre peuple se sentent mal à l'aise aux côtés des autres. Ils développent des sentiments de haine, de mépris et de considération envers les humains semblables, d'où les conflits interminables. Autre chose qui peut nous amener dans des situations de traumatisme, c'est la surcharge au travail. Les personnes surchargées dans leurs tâches au travail sont soumises à un stress continu qui peut provoquer en elles des blessures du cœur. D'ailleurs, certaines organisations préviennent le postulant à être prêt à travailler comment ? Sous stress. Le stress continu va provoquer des traumatismes dans les chefs et bien des personnes. D'autres responsables, par exemple, font tout vraiment et n'ont confiance à personne et dans certaines organisations. Et d'autres personnes sont des cumulards. Elles sont engagées dans beaucoup de choses. Il y a mais autre chose, ce sont les maladies chroniques et incurables. Ces maladies sont aussi cause de blessures intérieures pour la victime, mais aussi pour les personnes qui l'entourent. Il y a aussi le manque à pardonner et le fait de ne pas demander pardon. Ça aussi, ça nous amène à vivre des blessures du cœur. J'ai ouï dire une femme qui racontait à sa collègue, « Tu sais, cette maman qui passe là, je ne la pardonnerai jamais. Vous savez ce qu'elle a fait ?» Elle a fait ceci, ABC, lui a raconté. Alors la femme qui écoutait lui a dit, mais elle a fait ça hier. Elle dit, non, ce n'est pas hier. Tu vois ma fille, là, ma deuxième fille qui s'est mariée il y a 4 ans. J'avais encore la grossesse de cette fille-là. Tu ne pardonnes pas, mais tu gardes une rancune, une douleur pendant plus de 25 ans ou 30 ans. Puisque cette fille-là qui était dans le sein de sa maman est née, peut-être il s'est marié à 20 ans, et 4 enfants après, c'est la maman qui continue à se rappeler de la blessure. Voyez combien le niveau de traumatisme. Quelques signes et conséquences. Les personnes qui ont des blessures du cœur sont identifiées par des signes qui se manifestent dans leur comportement. Ces signes se regroupent en 3 points. Il y a ces personnes qui revivent l'événement. Beaucoup de gens dont le cœur est blessé pensent tout le temps à l'événement qui est à l'origine de leur traumatisme. Parfois, ils ont l'impression d'être de retour dans l'événement, de le revivre. Cela peut intervenir quand ils sont éveillés ou dans leurs rêves sous forme de cauchemars. Penser sans cesse à l'événement peut les empêcher à se concentrer sur leurs tâches courantes. Les images reviennent toujours et la personne peut paraître distraite puisque la personne est en train de revivre cet événement. Mais aussi d'autres personnes évitent tout ce qui peut leur rappeler le traumatisme. Certaines personnes dont le cœur est blessé évitent tout ce qui peut raviver le souvenir de l'événement traumatique subi. Par exemple, les gens ayant vécu une guerre pendant laquelle ils ont subi des bombardements peuvent être terrifiés par le bruit d'un avion et ils peuvent éviter les aéroports. Les gens qui ont été blessés et par des chrétiens peuvent refuser d'aller à l'église. Et certaines personnes dont le cœur est blessé peuvent essayer de fuir leurs émotions, parfois en prenant de l'alcool et de la drogue. Certaines personnes dont le cœur est blessé sont comme hébétées, donc soudainement stupides. Elles peuvent ne pas se soucier de ce qui leur arrive. Certaines sont indifférentes devant la violence et quand ils voient des cadavres. D'autres sont tristes, ils perdent tout intérêt à manger. Et d'autres pleurent beaucoup, n'ont plus d'énergie. Autre troisième catégorie, ils sont en alerte d'une façon permanente. Ces personnes-là sont en alerte puisqu'ils sont toujours inquiètes.
Chaque bruit fort les fait sursauter. Ces personnes sont tout le temps effrayées. À chaque instant, elles s'attendent à ce qu'un autre malheur survienne. Certains peuvent surréagir avec violence ou avec colère. Certains sont tellement inquiets qu'il ne leur est plus possible de s'endormir ou alors ils se réveillent très tôt. Par moments, ils se mettent à trembler ou bien leur cœur bat trop vite ou irrégulièrement. Ils peuvent avoir des maux de tête et de ventre. À d'autres moments, ils peuvent avoir du mal à respirer et avoir des vertiges ou s'évanouir. David a dit en psaume 55, versets 5 et 6, il a dit, « Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. » Ça, c'est quelqu'un qui a des blessures. Toutes ces créations, ces réactions sont normales pour les gens dont le cœur est blessé. Ces réactions peuvent être immédiates ou survenir plus tard. Les conséquences peuvent être au niveau psychologique, au niveau physique et au niveau spirituel. Au niveau psychologique, vous rencontrerez la personne qui est démotivée au travail et elle se sent incompétente et peut préférer s'isoler. Elle est frustrée, anxieuse, indécise. Elle a trop de confusion. Au niveau physique, cette personne-là a des fatigues qui persistent, même des troubles de sommeil, des troubles digestifs. Elle a des maux de tête, des migraines, des palpitations cardiaques, hypertension, hypotension peut survenir. Au niveau spirituel, la victime perd ou ralentit la communion avec les autres frères et sœurs. En choisissant de s'isoler, de ne pas participer aux rencontres avec les autres dans le ministère où il est membre, par exemple. Cette personne perd aussi la communion avec Dieu par le découragement à la lecture de la parole de Dieu, à la prière et au partage de l'Évangile. Mais cette personne aussi perd la communion avec soi-même. Avec soi-même. Le temps de qu'il puisse faire la réunion avec soi-même n'est plus là. Les victimes des blessures du cœur sont des chrétiens, tout comme des non-chrétiens. Mais pour nous chrétiens, Dieu est là et il nous y rencontre. Pour vous disciples, si vous êtes dans cette situation de traumatisme, Dieu est là avec vous. Dieu est là comment? Par exemple, c'est d'abord puisqu'il continue à nous aimer. Le passage que nous avons lu en Romains, il a dit que j'ai l'assurance, et il a cité beaucoup de choses là. Est-ce que toutes ces choses peuvent m'enlever à l'amour de Dieu? Non. Cela veut dire que même si nous passons par, même si nous avons des ennuis, nous pouvons penser que Dieu ne nous aime plus. Ce n'est pas vrai. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dieu d'ailleurs promet d'être toujours avec nous, spécialement quand nous souffrons. Dieu souffre avec nous. Deuxième chose, il ressent notre peine et il guérit nos blessures. Psaume 34, 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 147, verset 3, l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Troisième chose, Dieu utilise la souffrance pour notre bien. Même si nous souffrons, Dieu peut utiliser cette souffrance pour purifier notre foi. Mais aussi, il utilise cette souffrance pour nous réconforter, afin que nous puissions consoler les autres. Et enfin, Dieu utilise la souffrance. Quelquefois, il peut changer cette souffrance qui est mal pour nous, il le change en bien. Souvenons-nous de Joseph. Quand il le disait à ses frères, dans le livre de Genèse, chapitre 50, versets 18 à 20, au verset 20, il a dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Mais aussi, nous devons savoir que nous sommes des créatures merveilleuses devant Dieu. Nous avons de la valeur devant Dieu. Même si nous avons des images qui nous enlèvent notre estime de soi, Dieu est là
qui nous accueille tel que nous sommes. Et le psaume 139, verset 14, qui dit « Ô Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Plus besoin de me sous-estimer, puisque Dieu m'accueille. » Mais aussi, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous, même si nous passons par des situations traumatisantes. Souvenez-vous d'Élie, quand il fuyait Jézabel. Il a marché sous un soleil ardent. Fatigué, il s'est endormi sous un genêt. Et l'Éternel est arrivé. Il lui a donné un plat, de la nourriture avec de l'eau. Il a mangé, il s'est rendormi. Après, l'Éternel encore est arrivé avec un autre plat, un deuxième plat avec de l'eau aussi. Et il lui a dit, lève-toi, mange, le chemin est loin, est encore long devant toi. Quand nous passons par des situations de peur, de souffrance, d'angoisse, l'Éternel est là pour prendre soin de nous. Jésus lui-même, avec ses disciples, il prenait le temps de retraite avec eux. Dieu doit rester au centre de nos pensées. Proverbe 4, 23, il dit que nous devons garder bien nos cœurs, plus que toute autre chose. Nous devons mettre les surveillants dans nos cœurs, puisque c'est là où sortent nos pensées. Et c'est pourquoi Paul a dit aux Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si cela est dans nos pensées, nous n'allons pas penser des choses qui nous font revenir dans les situations traumatisantes que nous avons connues. Mais aussi, bien-aimés, Jésus-Christ pour nous est un don. Est un don que Dieu lui-même nous a donné. Le prophète Ésaïe a dit, celui-là était méprisé, abandonné de tous. Il n'avait pas un visage là où quelqu'un pouvait s'arrêter et regarder deuxième fois un beau visage. Non. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais c'est par ses meurtrissures que vous et moi, nous sommes sauvés. C'est aussi par ses meurtrissures que vous et moi, nous sommes guéris de nos blessures intérieures. Jésus-Christ a dit, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés. » Nous pouvons nous sentir fatigués et chargés par les blessures que nous avons connues. Les traumatismes sont une réalité dans notre vie. Nous avons à les affronter tous les jours de notre vie, dans notre marche avec Christ. Ils sont là. Même si ce n'est pas nous-mêmes victimes, mais nous allons écouter comment les autres sont traités et ça va nous faire du mal dans notre cœur. Dieu est là avec nous et il nous guérit de ses blessures. Apportons nos douleurs à la croix de Jésus-Christ et il nous donnera du repos. Quelqu'un veut prier, veut dire à Dieu, je te remets ma blessure puisque vous connaissez votre blessure. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais vous allez le connaître après. Nous allons prier. Peut-être que vous pouvez murmurer quelques mots devant Dieu. Je me rends compte que je suis blessé quelque part, puisqu'il y a un comportement que j'affiche et qui n'est pas normal. Peut-être que les gens ont constaté que je suis devenu violent, impatient. Nous allons prier. Je vais inviter le pasteur qui viendra prier pour nous.
Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui nous réconforte. Ta parole qui nous enseigne, ta parole qui nous oriente. Seigneur, nous sommes debout devant toi, avec toutes nos situations traumatisantes, avec, Seigneur, tous ces fardeaux que nous nous sommes causés, peut-être nous-mêmes, ce fardeau qui nous ont été imposés par d'autres, par notre société, par les gens avec qui nous vivons. Mais Seigneur, nous te remercions car tu es à nos côtés. Pendant des moments de souffrance, des moments de détresse, des moments d'inquiétude, des moments de désespoir, tu dis, n'ayez pas peur, car je suis et je serai avec toi. Seigneur, merci, car ni la mort, ni la faim, ni la souffrance, ni l'épée, ni la nudité, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, que ton amour inonde les cœurs de chacun de nous. Que ton amour remplisse nos familles. Que ton amour remplisse notre société et notre pays. Guéris nos blessures internes et externes. Donne-nous la force, Seigneur, d'escalader toutes ces montagnes de blessures qui sont dans nos cœurs, dans nos activités quotidiennes. Seigneur, nous déversons tout cela entre tes mains, afin que tu nous prennes en charge, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen.